Bonjour, je suis Sabine. Accompagnée de Clara, Alice et Thomas, nous animons le podcast « Repère-moi si tu peux ». « Repère-moi si tu peux » est une balade auditive à travers Paris et le cinéma. Avec l'aide de membres de l'équipe d'un film, nous revenons sur la constitution des décors et les choix de lieux de tournage. Qu'est-ce que les films nous disent de Paris? Pourquoi avoir filmé ce monument et pas un autre? Que raconte un lieu? Partons ensemble à la découverte du Paris des films. « Repère-moi si tu peux », c'est également une carte interactive qui référence les lieux de tournage abordés au cours des entretiens et propose des parcours dans les rues parisiennes. Retrouvez l'ensemble des épisodes et des cartes interactives sur notre site repère-moi-si-tu-peux.com. Aujourd'hui, nous rencontrons Benjamin Vasseur, repéreur pour le cinéma.
J'allais dire que tu as notamment aussi travaillé sur Hors Normes, de Toledano Nakache, Proxima d'Alice Vinocourt, Mon Inconnu d'Hugo Gélin, et également Le Sens de la Fête, également de Toledano et Nakache.
Comment es-tu devenu, du coup, repéreur?
J'ai fait un peu la fac de cinéma. J'avais eu un prof qui m'avait parlé des repérages sur un film de Renoir qui s'appelait Le Fleuve. Et les repérages avaient été faits en partie par un réalisateur indien qui s'appelle Satyajit Ray. Donc j'avais une espèce d'initiation comme ça, et je sais que le professeur nous avait souligné que la question des repérages était importante et tout ça. Je trouvais ça super qu'un réalisateur comme Satyajit Ray puisse se mettre au service de Renoir. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est vrai que ce truc d'aventure en Inde et tout ça, je trouvais ça passionnant. Après, j'ai commencé dans une production qui faisait principalement des films publicitaires, qui faisait quelques longs métrages, mais qui était très connu pour ces films publicitaires. Et à l'époque, les repéreurs de films publicitaires, il n'y avait pas encore Internet, ils étaient assez costauds, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leurs sacoches, leurs cheveux longs, leurs barbes, et puis ils posaient tout d'un coup les photos des décors qu'ils étaient allés chercher. Alors on les envoyait des fois très loin, et là il y avait toute la production qui s'arrêtait, parce que là c'était vraiment le moment où on se mettait autour d'une table et on se disait le film va se faire, on va tourner là, on va mettre nos comédiens, et puis il y avait tout qui s'organisait, c'est-à-dire que moi j'étais petit stagiaire en production, et on allait garer les camions, on allait faire les convocations, on allait faire le tour des commerçants pour prévenir, tout allait se mettre en place. Juste avec ce monsieur qui pose la photo et qui dit c'est à peu près là. Et je trouvais ça presque plus fort. Alors j'aurais travaillé qu'en long métrage, j'aurais pas eu cette sensation là, mais tout d'un coup dans l'aspect publicitaire, je disais super, c'est le mec qui fait tout le boulot quoi, quelque part. Facile après d'arriver et de avec sa caméra, il a déjà posé l'endroit, la possibilité de faire le film là et tout ça, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Donc je trouvais ça assez incroyable. Et donc il y avait un truc un peu comme ça, fantasmé, une image un peu fantasmée, que sur lequel j'adhérais à fond, et j'avais envie d'avoir les cheveux longs, la besace, l'appareil photo, les trucs, je trouvais ça assez incroyable. Et ça reste maintenant quand on parle ou quand on est chez des gens ou à des dîners et tout ça, quand les gens vous font un tour de table et vous disent qu'est-ce que vous faites et que vous commencez à parler de votre métier, tout de suite c'est vous voyez les yeux qui pétillent et tout ça, c'est incroyable et tout ça. La réalité est beaucoup moins grandiose que ça, mais c'est vrai que les gens tout de suite ça devient un métier passionnant et tout ça.
C'est vrai qu'en t'entendant parler, je m'imagine tout de suite un côté presque aventurier Indiana Jones qui part à travers la jungle urbaine ou la jungle tout court pour trouver le lieu précis du tournage. Est-ce que c'est ça qui te plaît un peu, le côté recherche?
Oui, le côté Indiana Jones à fond. C'est-à-dire que quand vous allez, alors ça arrive assez rarement en réalité, mais c'est vrai que quand vous trouvez une pépite, un endroit qui est fort et qui correspond au scénario et tout ça, et qui a un charme fou, puis que vous allez le voir au cinéma ensuite, il y a quelque chose d'assez fort. Mais je dirais, c'est presque le truc inverse, c'est-à-dire que maintenant que vous me posez la question, moi en tant que spectateur, j'ai besoin d'être soufflé. C'est-à-dire que quand je suis dans ma salle de cinéma, je vais prendre un exemple, un match de foot, n'importe quoi, si je vois trois supporters qui crient, qui font ouais, et puis des plans rapprochés de quelqu'un qui joue au ballon et tout ça, si j'ai pas l'amplitude d'un stade de foot, si on me raconte ça dans l'histoire, si j'ai pas le souffle cinématographique de voir quelque chose un peu fort avec du monde et tout ça, si je vois pas ça, cette photo, voilà. Ça va me gêner, je vais dire, c'est un peu bidon. Et pareil pour plein de types de décors, j'ai besoin d'être un peu soufflé d'un point de vue cinématographique, photographique presque.
Alors comment est-ce qu'on entre dans ce métier?
Alors moi j'ai été stagiaire en production, j'ai commencé en production, j'ai fait après de la régie, j'ai fait de l'assistanat mise en scène. Et généralement c'est les deux branches qui conduisent un peu au repérage, soit la régie, soit l'assistanat mise en scène. Souvent les deux, c'est pas mal d'avoir fait les deux pour avoir un peu une expérience de plateau pour savoir comment ça fonctionne. Une expérience de régie pour voir comment on organise un tournage, et puis après on est plus crédible, qu'on peut aller voir un endroit, on sait ce qui va arriver derrière. Après il y a quelque chose de très mystérieux, c'est-à-dire que pourquoi on vous envoie, vous, chercher quelque chose? Pourquoi vous vous arrêtez devant cette maison? Alors, vous allez vous dire, c'est de la photographie, du... Mais pourquoi, voilà, alors ça, c'est totalement abstrait, hein, pourquoi cette maison, elle vous plaît, pas la voisine et tout ça. Et moi, je suis toujours surpris en visite équipe, pour... on vient, on est plein, et tout d'un coup, on se repose devant cette maison, alors qu'il y en a plein d'autres, et personne ne se dit, oui, ça peut être celle d'à côté, tout le monde, c'est une évidence que celle que j'ai vue, c'est celle... Donc ça, c'est quelque chose d'impalpable, pourquoi ça marche, voilà. Et puis une fois que ça marche, bah, on vous rappelle, ah, bah, c'était bien, vous avez trouvé la maison, enfin, et puis voilà. Donc des fois, il ne faut pas trop se poser de questions, il y a un truc un peu d'impalpable, ça arrive de faire des films, on passait complètement à côté du réalisateur, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où... on n'est peut-être pas en phase, on n'a peut-être pas compris ce qu'il voulait, on n'a peut-être pas... Donc ça arrive d'un point de vue esthétique, d'un point de vue narratif aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu les évidences, qui étaient quoi, les choses qui étaient importantes par rapport au scénario.
Quand j'ai fait une mini-liste des films sur lesquels vous avez travaillé, je me suis dit qu'il y avait deux fois Toledano et Nakache, et donc je me demandais si c'était quelque chose qui arrivait souvent pour vous de retravailler avec les mêmes réalisateurs, et si peut-être ça facilitait aussi votre travail.
Alors j'ai eu le cas avec un réalisateur qui s'appelle Quentin Dupieux, on a fait plusieurs films, on a fait 5, Nakache et Toledano, j'en ai fait 3. Alors c'est assez rigolo, pour Quentin Dupieux c'était rigolo parce que le contact s'est bien fait avec lui, et tout de suite après lui il m'a rappelé pour le deuxième film et tout ça. Moi je trouve que ça facilite parce que plus on travaille avec quelqu'un, plus on sait comment il travaille, plus on sait... en termes de goût, ce qu'il aime bien, ce qu'il ne va pas aimer, et tout ça. Et donc, plus on est fin, et plus on sait, on peut réagir par rapport au scénario en disant, bah voilà, peut-être que là, il y a un écueil, peut-être qu'on va partir là-dessus, et tout ça. Donc, pour moi, je trouve qu'on est plus performant en connaissant les gens, dans une certaine mesure, parce qu'après, il y a peut-être des zones de confort où on est habitué, c'est un peu facile, enfin, il y a un côté un peu facile. Mais ouais, moi, je suis assez pour. C'est quelque chose qui ne se passe pas tant que ça en repérage. Les habitudes et tout ça, parce que c'est les producteurs qui appellent, les directeurs de production, c'est rare que ce soit un réalisateur qui vous mette sur le film, parce que voilà. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait il y a des tas de choses qui se passent, et vous êtes plus fin en travaillant avec les mêmes personnes. Voilà. Après, je peux comprendre aussi qu'un réalisateur ait besoin de se renouveler ses équipes d'un point de vue artistique et tout ça, qu'il ait l'impression qu'on s'endorme un petit peu. Donc voilà, ça reste des patrons. Hein, voilà. Donc il y a un côté, à un moment, on remue tout ça et puis on change les équipes. Mais oui, il y a une histoire d'affinité avec le temps qui est plutôt appréciable. Voilà.
Est-ce que tes goûts peuvent peser dans la balance? C'est-à-dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un projet en te disant « Oh là là, non mais non, j'ai pas du tout envie d'aller chercher un lieu pour cette histoire ?»
Je trouve en fait que quand vous lisez un bon scénario et que vous y croyez, on parlait de Proxima, et que tout d'un coup il y a quelque chose qui vous touche dans l'histoire, je trouve que vous êtes plus convaincant quand vous frappez à la porte chez les gens en disant « Bah voilà, et puis là vous déballez l'histoire, il y a quelque chose d'assez naturel parce que l'histoire vous touche et tout ça. » C'est vrai que vous promenez avec une histoire qui ne vous intéresse pas du tout, ouais, c'est plus compliqué parce que vous allez avoir un peu plus de mal. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, je suis assez entier et tout ça. Et comme vous êtes, c'est un métier de contact et que vous allez voir les gens, moi, je pars toujours du principe que c'est assez naturel. Enfin, je dis tout aux personnes, c'est très honnête. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout, je ne cherche pas à cacher les choses parce que quand une personne accepte chez lui un tournage, ça va être 10 camions qui vont être garés, ça va être 30 personnes, 40 personnes, ça va être, on va tout... Donc c'est vrai que les personnes, faut les préparer, faut dire ce qui est. Et pareil à la production, si jamais vous sentez quelques points qui sont difficiles et tout ça, il faut le dire au réalisateur, mettre carte sur table en disant bah là on peut tourner, mais attention, il y a la voisine qui est, je sais pas, qui a un ennui de santé et tout ça, va falloir qu'on soit un peu vigilant sur ça, sur les déchargements, j'en sais rien, je dis voilà, peut-être qu'on soit prudent, qu'on mette un peu les formes, que la régie mette un peu les formes dans la manière d'aborder les choses et tout ça. Enfin, donc on prévient, et le réalisateur, souvent, en fait les grands réalisateurs, très vite ils comprennent, ça c'est des choses qu'ils comprennent. Plus on descend en gamme en réalisateur, plus c'est des stars et plus tout ça ils vont pas comprendre. Mais un grand réalisateur sait très bien qu'on va chez des gens, que ceci, qu'il y a des impératifs et tout ça, donc il va comprendre dans une certaine mesure, même s'il pousse un peu les choses, c'est des gens qui comprennent, et s'ils voient que c'est vraiment trop difficile, ils vont comprendre. Donc oui, la nature d'une histoire, ouais, c'est super important. Pareil pour les équipes, si derrière vous savez que c'est des gens qui travaillent mal, moi, je vais avoir du mal à aller voir des personnes, à les convaincre. J'ai l'impression d'être un escroc. Et si derrière, ça travaille mal. Donc, j'ai tendance à leur dire que je travaille avec des bonnes équipes, ce qui est le cas, parce que c'est rassurant. Je m'engage là-dessus. Enfin, alors après, vous n'avez pas toujours le choix. Hein. C'est sûr que moi, j'ai ma toute vous liste de réalisateurs que j'aimerais bien travailler, avec lesquels j'aimerais bien travailler. J'essaye, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe non plus.
Je savais qu'il savait qu'à chaque heure, de chaque jour, je peux penser. Robert n'est pas mort au camp de concentration.
On a visité le vrai appartement, hein, on a réussi à mettre la main sur le vrai appartement, qui était intéressant dans ce qu'il racontait, tout ça. Il y avait eu des documentaires qui avaient été faits dans l'appartement de Marguerite Duras, donc déjà on avait des images, on voyait le style et tout ça. Et puis c'était rigolo, vu que le film se passe quand même beaucoup dans l'appartement, avec beaucoup de rapports à l'extérieur, la rue, le quartier avait pas mal changé. Quand on était devant les fenêtres, on voyait la faculté de médecine qui avait été construite derrière, donc toutes les perspectives, ça fonctionnait pas vraiment. Ça ressemblait, le réalisateur avait dit que ça ressemblait plus à Gotham City qu'au Paris de 1940, ce qui est pas faux, hein, c'est assez bien vu parce que c'est un peu l'effet qu'on a quand on est sur la façade arrière de la faculté de médecine. Et après, non, ça a été une grosse, grosse recherche parce qu'en fait, le réalisateur voulait un ensemble, c'est-à-dire l'appartement. Quand on se rapproche des fenêtres, à voir les façades qui sont en face et qui sont un petit peu noircies, comme étaient les façades parisiennes à cette époque-là. On regarde en bas, là, on a une rue pavée, on a peut-être un café, qu'on n'a pas peut-être, on a certainement un café. Donc là, il fallait une configuration de rue pavée, façade noircie, petit café, et puis l'appartement qui corresponde dans sa distribution, dans son style, que les fenêtres ne soient pas du double vitrage, enfin voilà, plein de choses, que les équipements datent un petit peu, enfin voilà, qu'on n'ait pas un énorme travail à refaire. Et évidemment, quand on est sur le palier, il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il y avait une séquence qui était importante, c'est quand son mari rentrait des camps, mais il y avait toute une séquence où elle l'apercevait enfin par la fenêtre, et il arrivait jusque, il se faisait porter, amener jusqu'à l'appartement, et là elle voulait plus le voir, et donc on avait tout un rapport entre la rue, l'appartement et la cage d'escalier. Donc tout ça, ça faisait un ensemble, et le réalisateur voulait pas couper, c'est-à-dire il voulait que cet ensemble tienne en un morceau, on va dire. Au début, on se dit que c'est pas compliqué, on va faire toutes les rues de Paris, on va regarder les façades noircies, les rues pavées et tout ça. Puis on commence à mettre des lettres et tout ça. Et Paris a énormément changé. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de très compliqué à trouver. Et alors là, c'était très compliqué de mettre la main dessus. Et d'ailleurs, on n'a pas mis techniquement la main dessus. On a fait un intérieur qui se trouvait à Versailles avec une façade noircie, un intérieur qui correspondait. Et on a fait les points de vue quand Marguerite Duras est à la fenêtre, qu'elle regarde. Et puis surtout qu'elle regarde la rue pavée, on l'a fait dans le 14e rue Civelle. Et pareil, on a fait la rue, les extérieurs rues, le porche d'entrée au niveau de la rue Civelle. Donc on a recomposé, comme ça se fait de manière assez classique pour beaucoup de films, intérieur et extérieur, on va dire dans deux endroits. Et ce qui a été compliqué, c'était que se rendre compte, alors ça paraît bête quand on le dit comme ça et quand on voit le film, mais que tout d'un coup la façade qui était en face, c'était important qu'elle soit noircie et qu'elle soit noircie naturellement, parce qu'en termes de déco, c'était très compliqué de se dire qu'on allait ravaler toute une façade, enfin en termes de prix et tout ça. Donc il fallait trouver quelque chose qui avait une texture déjà bien présente.
Tout à l'heure, on nous avait parlé de 51 semaines de recherche pour l'appartement. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne ressent pas un petit découragement peut-être ?
Alors c'est pas un petit découragement, c'est un très très gros découragement. On s'épuise. Et puis surtout, on perd un peu les priorités. En fait, on commence à tomber un petit peu dans des recherches vaines, mais on oublie d'hierarchiser, on oublie le pourquoi de la recherche. Quand on commence la prépa d'un film, et les repérages en l'occurrence, on ne sait pas vraiment. C'est-à-dire, on est dans le scénario, le réalisateur a écrit son scénario, et puis là, on va passer à la réalité, et tout d'un coup des choses qui étaient écrites qui fonctionnaient très bien et qui en plus d'un point de vue narratif fonctionnent bien, quand on les passe à la réalité, on se rend compte que c'est plus du tout possible, que ça fonctionne pas, et le repérage, c'est ça, c'est-à-dire à un moment on confond, donc il y a des choses qui marchent pas, puis il y a des choses qui doivent marcher, parce que d'un point de vue narratif, donc on se confronte à des tas de choses, et donc il faut pas oublier quels sont les essentiels. Et les réalisateurs aiment bien qu'on cherche. Donc ils ont tendance un peu à pousser à l'épuisement, ça fait partie aussi de quelque chose et qui est naturel, parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur refourgue le premier décor, la première idée, donc ils ont envie qu'on recherche.
On s'est posé la question de comment vous faisiez pour solliciter les particuliers, parce qu'en l'occurrence pour un appartement, c'est des particuliers qui louent le prêtre, à qui vous louez. Donc comment vous faites finalement pour les trouver, ces particuliers ?
Il y a plusieurs options. La classique, on va dire, c'est de mettre des petites annonces dans les boîtes aux lettres et tout ça, en essayant d'être assez précis sur la recherche pour éviter d'avoir des choses qui ne correspondent pas. Et donc ça, c'est une recherche assez simple où on va voir des choses. Alors là, il faut être un peu pertinent, c'est-à-dire par exemple pour l'exemple de la douleur. Dans les rues, on cherchait les murs qui étaient noircis, les rues pavées. Et dans ces rues qui correspondaient à une ambiance un petit peu du Paris de 1940, eh ben, on allait enquêter sur les immeubles, mettre des petits courriers, parler éventuellement au concierge, s'il y a des choses qui sont en vente, qui sont... Voilà. Là, c'est un délai d'occupation qui est très long. Donc, c'est pas mal que les gens reviennent vers vous, parce que si vous allez frapper à la porte et que vous dites, voilà, pendant 3 mois, on voudrait votre appartement, il y a un côté qui peut faire un petit peu peur. Donc, c'est bien d'avoir un petit mot et de laisser les gens revenir. Et puis après, il y a des films où on va directement, on sait que c'est ce type d'appartement qu'on recherche dans ce quartier avec ce type d'immeuble. Et là, on va être un peu plus précis ou un petit peu plus pressant. On va faire une enquête de terrain, voir les boutiques à côté, frapper aux portes, enfin pousser un petit peu plus le bouchon. Donc il y a toujours ça. Et puis après, il y a des agences de repérage qui fournissent aussi un petit peu de matière. Mais pour les films d'époque, par exemple, ça peut être intéressant. Enfin, voilà, on a aussi nos réseaux, on va dire, avec des espèces de fichiers dans lesquels on peut se nourrir aussi, où on peut avoir des choses intéressantes.
Est-ce que tu n'as pas peut-être, avec les années pris, une forme presque de déformation professionnelle qui ferait que dès qu'on, même en vacances,
Alors,
on continue de chercher?
je te coupe, c'est fou parce que quand je vais chez des gens, je demande à tout visiter et je photographie leur intérieur.
C'est ce qu'on s'est demandé
Et
justement.
quand, je sais pas, ça m'arrive, je sais pas, d'aller dans des chalets, dans des beaux chalets et tout ça. Et tout d'un coup, je dis, ah ben, je peux visiter. Les gens sont assez surpris. Et en plus, ça m'arrive, c'est vraiment une déformation professionnelle avec des gens que je connais pas du tout. Donc, je me retrouve à me balader et les gens, tout d'un coup, ils me regardent très bizarrement et tout ça. Ouais, alors ça, c'est une totale. Ouais, c'est une déformation professionnelle. Il y a des choses qui sont marrantes. Ça m'arrive dans les pays, par exemple. Ça m'était arrivé à Stockholm. Moi, j'étais allé à Stockholm au moment où ils faisaient Millennium. Enfin bref, c'est pas. Mais à un moment, je me suis arrêté devant des escaliers ou des choses de la ville que je prends en photo. Je dis, ah, c'est incroyable cette perspective. Enfin, on s'en fiche, c'était à côté d'une boutique, enfin d'un H&M ou je sais pas trop quoi. Ça n'a aucun intérêt de s'arrêter devant cet escalier-là. Sauf qu'après, vous voyez le film et puis vous voyez l'escalier, vous vous dites, bah ouais, c'est le même. Enfin, et après, oui, vous voyez des décors qui font cinéma, des points de vue, des choses. Et ça, c'est marrant parce que quand vous êtes en vacances, vous voyez le potentiel cinématographique d'un endroit. Et souvent, les gens qui sont autour de vous ne le voient absolument pas. Vous êtes tout seul à voir votre bout d'escalier ou votre bout de truc. Et il y a des fois, à contrario, il y a des gens qui vous emmènent dans des endroits en vous disant, ça, c'est un potentiel. Ils seront pas compte que l'endroit a été complètement refait, qu'en réalité il y a assez peu de potentiel, qu'il y a une voie de chemin de fer qui traverse limite le château et que c'est inutilisable en termes de son, de choses. Et tout d'un coup, moi pour moi, je dis pas que ça a moins de charme, mais tout d'un coup je me dis oui, enfin je vois pas le potentiel d'un point de vue cinématographique. L'endroit a beau être sympa, voilà. Donc oui, il y a une vraie déformation professionnelle.
C'est possible de visiter ici s'il y a besoin.
Ouais, bah, j'ai pris un petit tour, je prendrai deux trois photographies.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable.
Et justement, comment es-tu arrivé sur le projet de J'accuse?
Alors, je suis arrivé dessus par un régisseur général qui m'a appelé, que je connaissais de longue date. Moi, au moment où il reprenait la préparation du film, j'étais pas disponible. C'est Carole Reynard qui a fait une grande partie de la reprise des repérages. Après, c'était passionnant parce que le film était, moi, j'en avais déjà entendu parler, assez long à comment dire le cheminement jusqu'à sa fabrication, au moment où il s'est vraiment fait, était assez long. Quand vous arrivez dessus, il y a un énorme travail qui est fait et voilà. Donc après, bah, vous vous mettez, vous vous greffez, voilà, vous greffez au projet et vous essayez surtout de ne pas faire de bêtises, enfin de faire les choses le plus correctement possible par rapport à ce qui a déjà été fait. Après, l'équipe qui encadrait le réalisateur était très bienveillante et ça veut dire que toutes les recherches étaient mises à disposition, donc on pouvait se plonger complètement dessus et on pouvait aussi apporter nos propres recherches. Voilà, s'il y avait des décors historiquement qu'on cherchait à voir à quel niveau ils étaient, si c'était des maisons bourgeoises, si c'était des petites maisons, enfin tout d'un coup on pouvait se plonger dans la documentation, on pouvait aussi nous-mêmes faire des recherches, enfin approfondir et tout ça, donc c'était vraiment super. On ne vous donne pas toujours cette latitude-là.
Comment est-ce que justement ça s'organise un travail de recherche et de documentation? Est-ce qu'on va en bibliothèque, on prend des livres, on essaye de savoir à quoi ressemblaient les bâtiments à l'époque, ou voilà, comment ça se passe?
En cinéma, on fait appel à des documentalistes. Donc là, il y avait déjà un travail qui avait été très fourni. Mais par exemple, on a une maison qui était la maison de campagne, on va dire, du général Gons. À un moment, il va et l'action se déroule dans une véranda. Il est en train. Voilà. Et donc, on a Picard qui va le voir. Et on ne savait pas comment était cette maison. C'était bizarre, mais dans toute la documentation qui avait été faite, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de. Voilà, il n'y avait pas de. On ne savait pas trop comment était cette maison. Et donc là, on se retrouve sur le terrain. Donc je suis allé voir dans la ville. J'étais voir où était l'adresse et tout ça. On avait récupéré des morceaux, donc j'étais voir. La maison avait été détruite, mais j'ai pu voir déjà les maisons qui étaient à côté, le style. Je suis allé enquêter chez les voisins, donc toc toc toc. J'étais visité. Eux avaient des vieux souvenirs et tout ça. Ils m'ont commencé à me donner des choses. Et puis après, je suis passé par la mairie et par quelqu'un qui était spécialisé de. Je crois que c'était Cormeilles-en-Parisis ou un truc comme ça, et qui était spécialisé dans l'histoire de sa ville. Et qui m'a sorti toutes les recherches, toutes les maisons et tout ça. Et on a réussi, au bout de quelques heures, à remettre la main sur des photos et tout ça, de la maison, de l'époque et tout ça. Enfin, c'était super. Et donc là, on a scanné, on a récupéré les documentations. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on avait déjà fait des recherches, nous, en repérage. Et la maison qu'on avait trouvée, en fait, c'était déjà la même que celle qu'on a retrouvée en faisant nos recherches. C'est-à-dire qu'on avait déjà, d'un point de vue d'intuition, on avait déjà mis la main sur le même type de maison bourgeoise, à peu près à la même époque et tout ça. On avait quasiment déjà trouvé un équivalent. Donc, quand on a regardé ça, on a fait, bah, ça sert à rien d'aller plus loin dans les recherches. Même si elle est détruite, on a déjà l'équivalent en intuition et tout ça. Sur le travail sur Jacu, c'était toujours la base historique, comment c'était... Puis après, on s'adapte dessus, on fait des entorses à la réalité, pour les besoins de la narration et tout ça, dans une certaine mesure. Mais il y a toujours le souci de dire comment c'était à l'époque, on se renseigne, on se documente, voilà. Et puis après, on travaille. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ce travail-là, on fait juste du n'importe quoi, mais c'est la porte ouverte à faire du n'importe quoi. Là, au moins, il y a une base, et puis après, on travaille dessus.
Et quelle était la part, parce qu'on ne se rend pas forcément compte en tant que spectateur, quelle est la part de décor naturel et la part de décor artificiel dans ce film ?
Sur Jacuzzi, il y a très peu de studios. Vraiment, c'est quelques petites journées par-ci, par-là. Le reste, c'est du décor naturel, mais avec une intervention de la déco assez forte. Mmh. Voilà, avec des endroits, des fois, qui étaient complètement nus et qui l'a complètement... complètement habillé. Ça peut être le cas du cabaret, par exemple, qui a été tourné au Divan du Monde. Là, quand on regarde le Divan du Monde, c'est assez nu, et au final, ils ont fait un cabaret très, très, très poussé. Et pareil, quand on sort du Divan du Monde, il n'y avait pas cette espèce de petite allée qu'a trouvé Carole dans le 16e, au niveau de la maison de Balzac. Et donc là, hop, on raccorde et on fait un petit point. Il faut savoir que le réalisateur, par rapport, on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Finkiel, ça ne le dérange pas du tout de faire un plan quelque part, et dans son contre-champ, de raconter autre chose, c'est-à-dire de faire un deuxième décor, c'est-à-dire ça ne le gêne pas de morceler les choses. D'accord. S'il arrive à faire sa construction. Voilà, il y a des réalisateurs qui ne sont pas du tout à l'aise là-dedans. Mm-hmm. Lui, il était très à l'aise sur le fait de morceler, de découper, de travailler par petits bouts. Voilà. Mais il faut savoir que pour lui, il est passé du studio dans sa tête au décor naturel complètement.
J'ai vu qu'il y avait quand même énormément de scènes qui avaient été tournées dans Paris. Est-ce que c'était une volonté de la part du réalisateur d'avoir énormément de lieux parisiens ?
Oui, alors c'est déjà dans les lieux, on va dire, historiques. Après, je crois qu'il avait une certaine souplesse. Encore une fois, comme il partait du studio, on lui aurait dit on fait ça à Bordeaux, avec des lieux bordelais qui font et qui marchent. Il aurait dit pourquoi pas. Je pense que c'était pas une. Lui n'a pas posé le curseur. Du moment que ça a raconté le film, c'était possible. L'île du Diable, par exemple, a été tournée en Bretagne à un moment donné, oui. Parce que tourner l'île du Diable, tout d'un coup, envoyer toute l'équipe et tout ça, ça coûtait beaucoup, beaucoup de sous. Et que tout d'un coup, de construire une petite cabane en Bretagne et de rajouter en déco quelques palmiers et en post-prod quelques palmiers, tout d'un coup, ça devenait plus réalisable. Quand on lui posait la question, quand on posait la question au réalisateur, ça ne le gênait pas. S'il pouvait retrouver cette sensation-là, et il voyait très bien sur les photos comment les choses allaient être faites. Donc, quelque part, le film aurait pu très bien être tourné pour répondre à votre question. Ailleurs, il n'y avait pas une volonté précise, précise de raconter Paris là-dessus. On a eu des exemples qui étaient assez marrants. Par exemple, l'église Sainte-Clotilde, à un moment, quoi, qui revient plusieurs fois dans le film, qui est l'église historique où les correspondances avaient lieu et s'échangeaient. Par exemple, ils ont refusé le tournage. Voilà, donc c'est pas grave, ça arrive et tout ça. Mais donc les lieux historiques, tout d'un coup, on ne pouvait pas y aller. Donc on s'est retrouvé à aller à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était une autre église, ça fonctionnait. Enfin, voilà, donc c'est ça qui est rigolo. Des fois, les lieux historiques, on se dit c'est super. On en parlait pour l'appartement de Marguerite Duras, c'est super. Mais tout d'un coup, de tourner dedans et tout ça, c'était beaucoup plus compliqué.
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'images de synthèse, du coup, dans ce film ?
Oui, alors c'était pareil. Ça, c'est des débats qui ont lieu... Nous, au moment des repérages, alors c'est pas nous qui les initions, mais à un moment donné, on discute parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Je sais, alors après, c'est pas de source sûre, on avait en tête, ou en tout cas avait été évoqué au revoir là-haut de Dupontel sur le travail, le travail autour de la post-production, voilà, qui est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, je pense que l'équipe, on va dire le chef décorateur, le réalisateur, comprenait qu'on pouvait aussi s'affranchir, faire des choses en post-production. Pour en avoir ou avoir entendu le chef décorateur sur cette question-là, Jean Rabat, n'était pas très fan de la post-production parce que c'est vrai que ça se sent un peu à l'image. Enfin, après, ça, c'est des débats, voilà. Et donc, il y a certaines scènes qui ont été amenées pour des raisons souvent économiques en post-prod, où on a fait des petits bouts, par exemple, pour le quartier de l'Opéra et tout ça, où on a tourné à des tables et tout ça. Voilà, c'est souvent des raisons économiques parce que c'était trop d'implications de tourner en extérieur et tout ça. Le réalisateur, ça ne le gênait pas, c'est-à-dire il voyait ce qu'on peut faire avec les outils et du moment qu'on peut arriver à obtenir le résultat souhaité, ça ne le dérangeait pas de s'appuyer dessus. Voilà, donc il y a de la post-production, ça a été pensé assez en amont et en repérage, on avait le responsable des effets. De la post-production et puis de ce qu'on pouvait faire. Et ça se posait sur des questions très simples. À un moment, on voyait quelqu'un sortir d'un bâtiment. Voilà, on avait envie de donner un petit peu plus de hauteur pour que ça fasse ville, parce que tout ça part toujours d'une idée, parce que l'endroit était peut-être un peu trop rural. Donc tout d'un coup, je dis ça pour par exemple les extérieurs à Rennes et tout ça, on était dans un endroit qui était un petit peu bas. Tout d'un coup, on a fait hop, juste rehausser d'un étage les immeubles dans les perspectives, c'est que ça coûte pas. Un bras et ça permet de donner un petit peu plus de hauteur, que ça fasse un peu plus ville, que ça fasse un peu plus Rennes, sans aller à Rennes. Enfin, après, c'est des choses où on se retrouve très facilement à trouver des solutions, à apporter des solutions. Donc là-dessus, ça, c'est des enjeux de discussion entre chef décorateur, réalisateur.
Merci Benjamin. Nous remercions Radio Campus Paris de nous avoir prêté son studio d'enregistrement. Merci Gouacha de nous avoir laissé utiliser votre musique. Nous remercions également Léa qui a réalisé plusieurs de nos épisodes. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet repère-moi-si-tu-peux.com. Vous pourrez trouver tous nos épisodes et également toutes les cartes interactives que nous avons créées. À bientôt pour un prochain épisode de Repère-moi-si-tu-peux.